Alors tout d'abord, je remercie François Héron et Laura Audasso pour leur invitation à ce séminaire, pour m'offrir donc l'opportunité de présenter un aspect de la recherche que j'ai menée dans le cadre de mon doctorat en sciences politiques, une recherche sur des féministes anticoloniales réunionnaises qui a donné lieu à un livre récemment publié chez Dalloz. Alors, ma présentation va ici se concentrer sur une mobilisation de réunionnaises émigrées en France dans les années 1960-1970. Le militantisme de ces réunionnaises dans ces années 1960-1970, il s'inscrit dans une double conjoncture. Premier trait de cette conjoncture, à La Réunion, comme dans d'autres départements d'outre-mer, un puissant mouvement anticolonial occupe la scène politique. Ce mouvement est dirigé à La Réunion par le Parti communiste réunionnais et il revendique non pas l'indépendance, mais l'autonomie, à savoir une forme de souveraineté politique compatible avec la conservation de la citoyenneté française. Deuxième trait de cette conjoncture, dans cette période, l'État français organise une émigration de travail massive de Réunionnais, de Martiniquais, de Guadeloupéens et plus marginalement de Guyanais vers la France. L'organisation de cette émigration repose sur une agence étatique qui s'appelle BUMINDOM, Bureau d'émigration intéressant les départements d'outre-mer, et qui fonctionne entre 1963 et 1982. Entre ces dates, le BUMINDOM organise donc l'immigration dite une immigration d'environ 180 000 Antillais et Réunionnais, principalement. Il encourage parallèlement une immigration dite spontanée, c'est-à-dire non encadrée par l'État, et donc au total, en moins de 20 ans, environ 300 000 personnes quittent les Antilles et la Réunion, à savoir l'équivalent de la population martiniquaise en 1961. Alors, une fois en France, certains et certaines de ces émigrés réunionnais s'organisent à la fois pour relayer les mobilisations anticoloniales réunionnaises et pour contester la politique migratoire française. Pourquoi je dis émigrés ? Parce que c'est le terme à travers lequel il et elle se désignent. Il et elle utilisent ce terme pour contester un discours étatique qui, comme l'a montré notamment la politiste Audrey Célestine, présente leur installation en France comme un simple déplacement sur le territoire national. Et donc, en se désignant comme émigrés, il et elle soulignent qu'ils font l'objet d'une politique migratoire. Alors, un des aspects peu étudiés de cette politique migratoire, c'est sa dimension genrée. Je m'explique, le tiers des migrations organisées par le BUMINDOM concerne des femmes, et cette proportion féminine est encore plus élevée dans le cas de La Réunion, où elle atteint et elle dépasse parfois certaines années 50%. De manière générale, la majorité des travaux qui ont été consacrés à l'expérience des Antillais et Réunionnais en France, à l'exception de ceux de Stéphanie Condon, se sont peu arrêtés sur les femmes. Et leur mobilisation, à l'instar d'ailleurs des mobilisations d'autres migrantes, ont encore moins retenu l'attention des chercheurs. Et pourtant, les sources militantes, c'est-à-dire les journaux, les tracts, les brochures, sont abondantes dans ces années 1960 et 70. Ces sources révèlent l'existence d'une organisation qui s'appelle l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France, je dirais UGTRF, qui est une organisation d'émigrés réunionnais fondée en 1963. Dès sa création, l'UGTRF se dote d'un journal qui s'appelle d'abord « Nous créoles » de 64 à 70, puis « Combat réunionnais » de 71 à 1985. L'analyse de ces archives révèle la constitution en 1965 d'un groupe femmes de l'Union générale des travailleurs réunionnais en France, et ce groupe femmes fonctionne jusqu'au début des années 1980 comme un espace dans lequel les militantes travaillent, je cite, à dégager ensemble leurs propres revendications. Alors, quel militantisme développe ces réunionnaises émigrées? Comment perçoivent-elles la politique migratoire française? Eh bien, c'est à cette question que je vais tenter de répondre en m'appuyant sur l'analyse des archives de l'UGTRF. Et j'organiserai ma présentation en trois points. D'abord, je retracerai la genèse de ce groupe femmes et je m'intéresserai particulièrement à la trajectoire de ces militantes. Deuxièmement, j'examinerai comment ces militantes réunionnaises analysent la politique migratoire française. Et enfin, je présenterai l'une de leurs mobilisations. Alors, qui sont les réunionnaises qui fondent et qui militent dans l'Union générale des travailleurs réunionnais en France? Cette organisation est fondée, je l'ai dit, en 1963, et elle est fondée par des militants et des militantes exilés en France, c'est-à-dire frappés par l'ordonnance du 15 octobre 1960, dite ordonnance Debré. Cette ordonnance stipule que les fonctionnaires d'État exerçant dans les DOM, donc je cite, dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public, peuvent être, sur la proposition du préfet et sans autre formalité, rappelés d'office en métropole par le ministre dont ils dépendent pour recevoir une nouvelle affectation. Cette ordonnance, édictée par le Premier ministre Michel Debré, dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne, participe d'un arsenal répressif qui est construit pour faire face aux mobilisations anticoloniales qui se radicalisent dans les Outre-mer, à la suite notamment des révoltes qui ont éclaté à Fort-de-France en 1959. Entre 1961 et 1972, 26 fonctionnaires des Antilles et de la Réunion ont été frappés par cette ordonnance et exilés en France. Exilés, c'est le terme par lequel il et elle se désignent. Les 13 réunionnais ainsi exilés sont des enseignants ou des cadres de la fonction publique. Tous sont des militants et des militantes expérimentés, membres du Parti communiste réunionnais, syndicalistes, et plusieurs d'entre eux sont des cadres militants. C'est le cas de deux militantes, Clélie Gamaleya et Nelly Barré, qui sont respectivement professeurs certifiés en lettres et institutrices. Elles sont toutes les deux des dirigeantes de l'Union des femmes de la Réunion, une organisation féminine liée au Parti communiste réunionnais. Pour la plupart, les exilés réunionnais sont affectés sur des postes en région parisienne et cette proximité géographique facilite leur regroupement. En fondant l'Union générale des travailleurs réunionnais en France en 1963, il et elle se mobilisent d'abord pour l'abrogation de cette ordonnance Debré, abrogation qui serait nécessaire pour qu'ils et elles puissent retourner travailler à La Réunion. Mais leur militantisme ne se limite pas du tout à cet objectif. En effet, l'UGTRF se crée dans le contexte de l'organisation étatique de la migration de travail antillaise et réunionnaise, donc le contexte du Bumindom qui a été créé également à l'instigation de Michel Debré. Et dans ce contexte, l'UGTRF se donne pour but, je cite, de porter au premier plan la lutte menée par les travailleuses et les travailleurs réunionnais en France pour leurs conditions de vie et de travail, et de soutenir la bataille contre les discriminations professionnelles et raciales menées par l'ensemble des immigrés dont nous faisons partie. Donc, bien que la revendication autonomiste soit rarement et non explicitement énoncée dans sa presse, l'UGTRF affirme que les Réunionnais appartiennent à un peuple distinct du peuple français, un peuple portant, je cite, une autre culture, une autre mentalité, une autre vision du monde et une autre histoire, un peuple décidé à prendre son destin en main. Cette organisation réunionnaise entretient des liens étroits avec les organisations anticoloniales martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, en particulier l'Association générale des travailleurs antillais et guyanais et le regroupement de l'émigration martiniquaise. Au sein de l'UGTRF, des militantes réunionnaises se mobilisent aux côtés de leurs compatriotes masculins pour ce qu'elles appellent, je cite, « la libération de notre pays natal », tout en soulignant que l'expérience migratoire des femmes diffère de celle des hommes. Et cette attention aux femmes, elle tient d'abord à l'implication des militantes frappées par l'ordonnance de Bré, à savoir Nelly Barré et Clélie Gamaléa. Une fois en France, le militantisme de ces dirigeantes de l'Union des femmes de La Réunion s'oriente vers les femmes émigrées. Et elles sont rejointes par d'autres membres de l'UGTRF, dont la migration tient à l'action du Bumindo. C'est notamment le cas de Nancy Morel, qui est agent d'un service hospitalier. En 1965, ces militantes font paraître dans le journal de l'UGTRF un appel qui est intitulé « À nos compatriotes migrantes ». Je lis « Si les problèmes posés par notre situation d'émigrés nous concernent en général tous, hommes et femmes, la condition des émigrés ne pose-t-elle pas des problèmes particuliers ? Les jeunes filles ont à affronter une situation souvent plus pénible que leurs compatriotes masculins. Dans ces conditions, chers amis, n'apparaît-il pas nécessaire que, tout en restant dans le cadre de l'UGTRF et en lui apportant notre collaboration, nous nous unissions entre nous dans un groupe féminin, un comité, qui aurait ses responsables, lesquels étudieraient les questions d'ordre féminin et pourraient prendre, le cas échéant, des décisions propres. Cela paraît incontestable. » Il s'agit donc de construire un cadre collectif où les femmes émigrées pourraient se réunir, s'accompagner, partager leur expérience, une expérience qui est d'emblée définie comme plus pénible que celle des hommes. Elles entendent se doter d'un espace qui leur permettrait de définir leurs propres besoins et leurs aspirations, de prendre, comme elles disent, des décisions propres sur les questions d'ordre féminin. Et donc, il y a une recherche d'une autonomie organisationnelle du groupe femmes par rapport à l'UGTRF qui est énoncée de cette manière. Et c'est donc dans cette perspective et à travers cet appel que se crée ce fameux groupe femmes de l'UGTRF. Ce groupe femmes publie sous cette signature, dans la presse de l'UGTRF, de nombreux articles et à partir de 1979, il anime la rubrique intitulée « Femmes réunionnaises » qui paraît dans chacune des éditions du journal. Ces publications, elles témoignent d'un militantisme qui est au carrefour de plusieurs mobilisations. Les militantes sont en effet engagées à la fois dans le mouvement communiste et anticolonial, à travers leur lien avec le Parti communiste réunionnais, dans le mouvement syndical, hein, elles participent à des grèves et à d'autres actions collectives sur les lieux de travail, dans le mouvement de l'immigration, elles participent à des manifestations contre les violences policières, à des occupations de foyers de travailleurs, et dans le mouvement féministe, comme le montre l'apparition du logo du mouvement de libération des femmes dans certaines pages du journal que vous pouvez voir sur la diapositive. C'est donc dans le cadre de ce militantisme à la fois politique, syndical, antiraciste et féministe qu'elles développent leur critique de la politique migratoire française qui est mise en œuvre par le Bumindome. C'est donc dans le cadre de leur sensibilité au rapport de domination, on pourrait dire de colonialité, de classe, de genre et de race, et j'entends par race le rapport de domination construit par le racisme, qu'elle développe ce que j'appelle, ce qu'on pourrait appeler en tout cas, une critique intersectionnelle du Bumindome. Alors comment ces militantes réunionnaises analysent-elles la politique migratoire française ? Les analyses publiées par le groupe Femmes se focalisent le plus souvent sur la question du travail, parce que le travail est au cœur de leur expérience migratoire. Elles critiquent l'assignation des migrantes au sale boulot, c'est-à-dire à des emplois dévalorisés, notamment parce qu'ils impliquent un contact avec la saleté. C'est-à-dire elles critiquent plus précisément l'assignation des migrantes réunionnaises et antillaises au travail domestique. Je lis l'extrait d'un article. Être comptable, puéricultrice, travailleuse familiale, infirmière, aide-soignante, ce sont les emplois promis aux jeunes filles pour les inciter à quitter leur pays. Dans le meilleur des cas, après un séjour à Crouy-sur-Ourcq, elles deviennent filles de salle pour y accomplir des tâches les plus pénibles et les moins payées, mais souvent, le Bumindome cède aux sollicitations des familles honorables et les Réunionnaises se retrouvent bonnes à tout faire chez les gens riches. Sans défense, isolées, elles sont maltraitées et surexploitées pour un salaire de misère. Donc sont mis ici en avant différents ressorts de la politique migratoire française qui conduisent les migrantes antillaises et réunionnaises vers le travail domestique chez des particuliers. Elles évoquent les promesses d'une promotion sociale, l'imposition d'une préformation ménagère à crouir sur Ourcq, j'y reviendrai longuement, l'orientation contrainte vers le travail domestique et la dévalorisation et l'exploitation brutale de ce travail. Alors, dans le détail, comment ça se passe? Comment concrètement les migrantes sont-elles orientées vers le travail domestique? Eh bien, les militantes de l'UGTRF expliquent d'abord que ce processus repose sur le contrôle étatique de la migration. Comparé aux migrations vers la France des ressortissants d'autres pays, les militantes notent que la migration des personnes antillaises et réunionnaises est, je cite, « la seule qui, du départ à l'arrivée, soit totalement organisée et prise en charge par l'État français ». Le Bumindum prend en effet en charge la sélection des personnes migrantes, à savoir très majoritairement des jeunes, des classes populaires ayant un faible niveau scolaire, leur transport, en avion ou en bateau, leur accueil en France, leur hébergement, le plus souvent au foyer, leur placement, c'est-à-dire leur affectation en formation en entreprise, et différentes mesures qui sont destinées à faciliter leur installation définitive, notamment des aides sociales ponctuelles et le regroupement familial. Les militantes de l'UGTRF soulignent que c'est non seulement ce contrôle étatique de tout le transport de la migration qui caractérise l'organisation de cette qui caractérise le Bumindum, mais aussi le fait que l'orientation professionnelle des migrants et des migrantes est genrée. En effet, à leur arrivée en France, les migrants et les migrantes sont soit par l'entremise du Bumindum placés, c'est-à-dire soit directement affectés sur un emploi, soit dirigés vers des centres de formation professionnelle. Et les hommes et les femmes sont orientés vers des secteurs différents. Les hommes sont massivement orientés vers les métiers du bâtiment et vers les industries métallurgiques et mécaniques, notamment dans le secteur de la construction automobile. Et certaines femmes sont orientées vers les industries textiles, dans les régions de Troyes et de Rouen notamment, mais il s'agit d'une minorité. L'écrasante majorité des migrantes est directement orientée vers les métiers de service, en particulier ceux d'employés de maison, d'agents hospitaliers ou des collectivités. La sociologue Stéphanie Condon note par exemple que 45% des Antillaises émigrées en France à partir de 1962 travaillent en tant que personnel de service en 1968. Comment ces femmes sont-elles orientées vers ces emplois? Alors, il faut savoir que le Bumindum proposait aux migrantes deux principales filières professionnelles. La première filière professionnelle proposée par le Bumindum ciblait les femmes qui étaient intéressées par le métier d'infirmière. Cependant, les militantes de l'UGTRF soulignent que les Antillaises et les Réunionnaises sont le plus souvent recrutées effectivement dans les hôpitaux, mais comme filles des salles, c'est-à-dire confinées à la cuisine, la lingerie et la désinfection. Évoquant le cas de 6 Réunionnaises qui sont placées dans les hospices civils de Lyon, un article du groupe Femmes déplore, donc je cite, « Les promesses faites à la Réunion se sont envolées en fumée, d'aide-soignante, place promise, elles se retrouvent, femmes de service, à longueur de journée, traînées plus bactères, sous le regard malveillant de quelques cheftaines pour un maigre salaire. » La seconde filière féminine instituée par le Bumindum orientait directement les femmes vers des particuliers pour être recrutées comme employées de maison, bien que ce ne soit pas le projet initial de la majorité des migrantes. En effet, celles-ci se voient assignées à un travail qui, dans bien des cas, a été celui, par exemple, de leur mère ou de leur tante, ou encore le leur, à La Réunion. « Je ne veux pas finir ma vie comme ça à faire des chambres. À La Réunion, j'étais déjà bonne. Être toujours là avec mon seau, mon éponge, dans ce cas, pas la peine de venir en France. » Proteste par exemple une migrante réunionnaise interviewée par des militantes de l'UGTRF. Les militantes expliquent cette orientation vers l'emploi domestique en mettant en avant deux facteurs. Elles évoquent d'abord la mobilisation des employés de maison espagnols. Et donc, selon elle, il s'agissait de la part du Bumindum de, je cite, « utiliser les bonnes antillaises et réunionnaises pour casser le mouvement des bonnes espagnoles qui se battaient pour obtenir des salaires convenables jugés par le Bumindum exorbitant ». Et là, elle cite une brochure du Bumindum, justement, qui vante les mérites des employés de maisons antillaises et réunionnaises qui travaillent pour moins cher que les Espagnols. Elles évoquent deuxièmement des stéréotypes racistes qui affectent les réunionnaises et les antillaises. Elles expliquent que le Bumindum présente ces migrantes comme étant très douces avec les enfants, donc dociles et affectueuses. Autrement dit, elles soulignent que leur orientation vers l'emploi domestique mobilise des stéréotypes qui affectent les femmes noires, des stéréotypes qui subsument les femmes noires sous la figure de la domestique robuste, docile, joviale et affectueuse, une figure qui, elle le note, s'enracine directement dans l'histoire de l'esclavage colonial. Et c'est sur la base de tels stéréotypes que les migrantes sont réputées avoir des dispositions naturelles à servir. Les militantes de l'IGTRF notent aussi que du côté des employeurs, je les cite, « traitée en être inférieure, la boniche des îles fait exotique dans les salons où elle est montrée comme invitée, où elle est montrée aux invités comme un oiseau rare. » Les militantes de l'IGTRF soulignent donc, outre les rapports de genre et de classe, le racisme qui préside à l'assignation des migrantes antillaises et réunionnaises au travail domestique. Cette critique intersectionnelle donne lieu à une mobilisation du groupe femmes en lien avec des migrantes réunionnaises orientées vers l'emploi domestique, et c'est sur cette mobilisation que je vais à présent m'attarder. Alors, les militantes de l'UGTRF entreprennent des actions de solidarité avec des migrantes réunionnaises assignées à l'emploi domestique. Elles observent d'abord que cette assignation tient à un dispositif coercitif qui est le centre dit de préformation ménagère de Crouy-sur-Ourcq. Le placement des Antillaises et des Réunionnaises chez des particuliers s'appuie en effet sur ce dispositif coercitif dont la pièce centrale est ce centre dit de préformation ménagère qui est mis en place par le Bumindum à Crouy-sur-Ourcq, donc un petit village qui est situé à 80 km de Paris, en Seine-et-Marne. Et ce centre est inauguré le 3 mars 1965 et il fonctionne jusqu'en 1983. La préformation proposée consistait à préparer les migrantes à être recrutées comme domestiques par des familles bourgeoises françaises. Alors, l'historien Félix Germain indique que la journée de formation s'étendait de 8h30 à 19h. Les dénommés stagiaires qui étaient placés sous l'autorité de jeunes administratifs et formatrices françaises, elles y suivaient des cours de cuisine française et de ménage. On leur enseignait notamment l'utilisation de divers appareils ménagers, l'entretien du linge, les techniques pour faire les lits, les différentes manières de laver, repasser, le service de table, et elles étaient en outre entraînées à mémoriser une liste de vins, de fromages et de desserts. Et des employeurs et des employeuses étaient invités à venir sur place le samedi après-midi, choisir la jeune femme qui servirait chez elle. Alors, ce centre constitue, selon les militantes de l'UGTRF, la pierre, je les cite, la pierre angulaire de la politique du pouvoir pour les migrations féminines, et c'est donc à ce titre qu'elle est une cible de leurs actions contestataires. Les militantes vont d'abord mener une campagne contre cette institution dans la presse de l'UGTRF. Elles vont documenter son fonctionnement et elles vont s'employer à donner la visibilité aux protestations individuelles et collectives des migrantes réunionnaises qui y sont retenues en publiant leurs témoignages. On peut donc découvrir cette institution à travers le témoignage que des réunionnaises livrent dans une pétition peu après, leur arrivée à Crouy-sur-Ourcq en 1966. Les signataires de cette pétition raconte d'abord que deux agents du Bumindum, les attendant à l'aéroport d'Orly, les ont conduites dans ce centre à Argelie. Les formalités de douane terminées, nous nous sommes brusquement trouvés en face de deux messieurs. Je suis monsieur Richard, je suis chargé de vous conduire au Bumindum de Paris, puis à Crouy-sur-Ourcq. Malgré nos protestations, nous sommes conduits au centre Latour dans le car bleu. Nous arrivons après 90 minutes d'un voyage exténuant. C'est ici que vous demeurerez en attendant d'être chez vos patrons, nous précise monsieur Richard. Donc elles y sont conduites, comme elles disent, malgré leurs protestations. Autre partie du témoignage, première impression qui nous saisit, le centre a l'air d'une prison. Nous y rencontrons des jeunes filles arrivées depuis une semaine et à qui il avait été interdit de venir nous dire le bonjour de l'accueil. Dès l'après-midi, on nous lit le règlement intérieur, un vrai code d'interdiction. La comparaison du centre à une prison revient dans pratiquement tous les témoignages. En 1974, en enquêtant elle-même à Crouy-sur-Ourcq, les militants de l'UGTRF décrivent dans ce village d'un millier d'habitants un bâtiment caché, entouré de murs assez hauts. Dans ces lieux sont parquées 80 filles de 17 à 25 ans, des réunionnaises en majorité et des antillaises. Il en arrive de la Réunion une dizaine chaque mercredi. Leur temps de séjour varie de 2 à 6 semaines. Les militantes notent encore en 1980 que c'est là que transitent annuellement 500 antillaises et réunionnaises. La sociologue Stéphanie Condon indique qu'entre le tiers et la moitié des femmes placées par le Bumindum ont été amenées dans ce centre à leur arrivée en France. Alors, les militantes de l'UGTRF vont analyser dans leur presse les ressorts coercitifs de ce qu'elles appellent l'appareil de Crouy. Les sorties sont interdites la journée, sauf pendant 25 minutes, d'après un horaire précis. Le samedi et le dimanche, la durée des sorties est prolongée, de 16h à 16h25, puis de 16h45 à 18h. Entre-temps, il y a 25 minutes consacrées au goûter, pendant lesquelles elles doivent être présentes et répondre à un appel. Sinon, on les prive de sortie pour le lendemain ou on leur inflige une punition du genre corvée de ménage. Elles n'ont pas le droit d'aller au café sous peine de punition. Le courrier est contrôlé et les affaires fouillées. Les militantes donc dénoncent notamment le contrôle politique qui préside à cet enfermement. Les visites et les coups de téléphone ne sont autorisés qu'à certaines heures. De plus, les visiteurs, quels qu'ils soient, doivent voir leurs amis au parloir et non dans les chambres. On se croirait à la prison de la santé. Lorsqu'un membre de la famille veut emmener une fille en week-end à Paris, il faut faire une demande au siège du Bumindum par écrit. Le Bumindum fait une enquête, puis donne ou refuse son autorisation. Inutile de dire qu'on se heurte le plus souvent à des refus, comme cela est arrivé à certaines camarades de l'UGTRF à qui on a refusé le droit d'emmener une amie pour un après-midi le dimanche. Ainsi, selon les militantes, ces règlements policiers, comme elles les appellent, contribuent à infantiliser, discipliner et surtout isoler les stagiaires et permettent de les tenir à l'écart des organisations militantes et notamment l'UGTRF. Les militantes évoquent, je les cite, la peur des femmes d'être renvoyées si elles protestent et la peur de ne plus trouver un emploi. En effet, leur projet migratoire était basé sur l'assurance qu'elles et leur famille avaient reçue de l'agence, enfin du Bumindum, qu'elles seraient entièrement prises en charge à leur arrivée en France. Et une fois en France, la hantise de se retrouver à la rue fait obstacle à la protestation. C'est pourquoi les militantes de l'UGTRF vont travailler à recueillir et diffuser leurs témoignages qui permettent de faire connaître leur situation. Ces témoignages révèlent des traitements humiliants et les militantes attribuent ces traitements humiliants à une volonté des agents de l'agence d'État, je cite, d'infantiliser et dévaloriser. Et elles citent sur ce point un bulletin du Bumindum évoquant, je cite le bulletin en question, des migrantes habituées à la nonchalance des pays chauds. Les militants de l'UGTRF expliquent que l'image renvoyée par l'institution aux stagiaires, c'est-à-dire aux migrantes, est celle d'une fille débauchée et d'une enfant paresseuse et malpropre. Et les militantes mettent ce stéréotype raciste en relation avec, je les cite, le regard porté depuis toujours par l'homme blanc colonisateur sur les femmes de couleur. Ainsi, selon elle, l'institution s'inscrit dans la continuité d'une histoire coloniale dont le racisme est un ressort central. Alors, en recueillant et en publiant les témoignages de réunionnaises transitant à Crouy-sur-Ourcq, le groupe Femmes révèle également toutes les pressions qui sont exercées pour que les migrantes acceptent d'être employées de maison. On nous dit qu'en travaillant pour des particuliers, nous ferons plus d'économies parce qu'au moins il n'y a pas de chambre à payer, déclare par exemple Josette. Cela fait environ un mois que j'attends ma place d'aide-soignante, or la directrice a essayé de me convaincre d'être employée de maison par trois fois, écrit une autre réunionnaise. À la fin, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi de travailler si ce n'est d'être placée chez quelqu'un. Avec d'autres filles, nous avions refusé. On nous a expédiées sur Paris, hébergées par la Maison de la Réunion. Une semaine a suffi pour me rendre à l'évidence. À savoir cela, je serais restée à la Réunion, se plaint Marie. À la fin du stage, chaque fille est placée, content, pas content, chez un employeur sans l'avoir préalablement rencontré pour discuter avec lui des conditions de travail, conclut Reine-Claude. Donc en publiant ces témoignages, les militants de l'UGTRF dénonce également donc ces pressions, ainsi que la brutalité des formes d'exploitation auxquelles les migrantes sont exposées. Questionnée par une militante de l'UGTRF, Josette raconte « Puis j'ai été placée. J'ai fait 18 jours chez une femme du 8e arrondissement de Paris, dont le mari était dentiste. C'était de l'esclavage. Il fallait faire tout le ménage, prendre les rendez-vous, recevoir les gens, faire le cabinet le soir après le travail, ranger les outils, descendre toutes les demi-heures, changer le disque de la voiture, promener le chien. J'étais soi-disant logée, nourrie. Logée, oui, mais la nourriture. Que du chou rouge, en salade, en bouillabaisse. Un beau jour, elle me dit « J'ai acheté un gigot. Faites-nous donc un rôti de chez vous, il paraît que c'est très bon. » Je le fais en me disant « Ce soir, je vais bien manger. » Le soir, je suis restée là, elle est venue, m'a dit « Voilà votre part. » Et c'était quoi ? L'os du milieu. Là où il n'y a plus de chair. Et une rondelle de viande pour Ignace, le petit chien. Je n'ai pas pu manger. Dans sa lettre écrite à Crouy-sur-Ourcq et adressée à l'UGTRF, une autre réunionnaise conclut « Je fais appel à votre solidarité pour briser les chaînes qui me serrent. On veut m'avoir à l'usure, mais moi, tant que je pourrai, je résisterai. » Et comme elle, d'autres migrantes mobilisent les ressources dont elles disposent pour échapper à la servitude. Par exemple, Reine-Claude, que j'ai citée tout à l'heure, raconte qu'elle s'est enfuie au bout de son troisième jour de travail, qu'elle est parvenue, le jour même, à trouver un emploi de vendeuse et une place dans un foyer d'hébergement le temps d'être recrutée dans un hôpital en tant que fille de salle. Josette est également parvenue à s'enfuir au bout de 18 jours avec l'aide d'une amie qui l'a présentée à la patronne d'un hôtel où elle a été recrutée comme femme de ménage. Cependant, pour beaucoup d'autres femmes, ces exits ne sont pas immédiatement envisageables, faute d'avoir les repères nécessaires dans la société française ou des personnes proches susceptibles de les aider en les hébergeant et en les orientant vers un autre emploi. L'isolement, qui est organisé par l'institution, les privent des ressources nécessaires pour transformer leurs conditions. Et c'est précisément à cet isolement que le groupe Femmes de l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France tente de pallier, c'est-à-dire qu'il s'agit d'organiser la solidarité avec ces émigrés réunionnaises les plus précarisés. Et c'est dans cette perspective qu'en 1974, le groupe Femmes rapporte une action collective qui est menée par l'UGTRF à Crouy-sur-Ourcq, donc une occupation du centre. Vis-à-vis de tout cela, et en réponse aux demandes présentes de nos compatriotes, l'UGTRF, et plus particulièrement le groupe Femmes, se devait d'intervenir sur place et de faire éclater au grand jour le caractère intolérable de ce soi-disant centre d'accueil. Des camarades sont d'abord allés à Crouy pour prendre contact avec des filles et parler avec elles du centre et de manière à s'informer davantage. Puis, il a été décidé de s'y rendre à plusieurs et de demander à voir les filles en groupe, ailleurs qu'au parloir et sans tout le cinéma habituel. La directrice a commencé par s'énerver et refuser de nous laisser entrer. Mais devant la volonté des filles qui sont descendues des étages pour parler avec nous, elle a été obligée de céder. Malgré tout, elle a appelé les gendarmes en annonçant qu'on occupait son centre. Cela nous a poussés à revenir une seconde fois. Entre-temps, les filles nous avaient tenus au courant des pressions exercées par la direction qui leur recommandait de ne pas nous écouter parce que nous étions des communistes et que nous voulions les entraîner à la révolution. Nous sommes retournés à Crouy. Je conclurai sur le récit de cette occupation. Occupation qui est une mobilisation qui témoigne de l'ambition du groupe femmes de l'UGTRF d'organiser donc la solidarité entre les émigrées réunionnaises. Et cette mobilisation, elle tient à une analyse de la politique migratoire française qui met en relief trois principales dimensions. Il s'agit d'abord de la dimension genrée de cette politique migratoire. Les militantes insistent sur le traitement différencié des hommes et des femmes, dont la migration est encadrée par le Bumindom. Et elles soulignent l'assignation systématique des migrantes vers les sales boulots, que ce soit vers l'emploi domestique ou l'emploi de service. Les militantes critiquent également la dimension raciale de cette politique migratoire, en soulignant que l'assignation des Antillaises et des Réunionnaises à ces sales boulots, c'est-à-dire ces emplois les plus dévalorisés, s'appuie sur des stéréotypes qui affectent les femmes noires et qui leur attribuent des dispositions naturelles à servir. Et de fait, il y a une abondante littérature scientifique qui montre que les femmes racisées sont surreprésentées dans ces emplois. Enfin, les militantes insistent sur la dimension coercitive de cette politique, c'est-à-dire que l'assignation des migrantes à l'emploi domestique s'appuie en partie sur l'enfermement et la contrainte. L'institution de Crouy-sur-Ourcq organise effectivement l'isolement, la dépendance et la vulnérabilité des migrantes, et c'est cette vulnérabilité qui est organisée par l'État, qui est fournie aux employeurs. Donc les militantes réunionnaises de l'UGTRF développent ce qu'on pourrait appeler une critique et une mobilisation intersectionnelle contre la politique migratoire française, contre cette politique migratoire française, intersectionnelle dans le sens où elles mettent en évidence un ensemble de dynamiques de pouvoir qui déterminent cette politique, à savoir des dynamiques de classe, de genre, de race et de colonialité. Et j'espère vous avoir montré que cette perspective intersectionnelle est éclairante pour comprendre le fonctionnement du Bumindom. Je vous remercie pour votre attention.